voudrais faire la lecture de ce jour. C'est l'évangile de Luc au chapitre 3. Pour réécouter Jean-Baptiste et nous poser la question, que nous dirait Jean-Baptiste aujourd'hui ? Que nous dirait Jean-Baptiste aujourd'hui ? C'est le thème de ma méditation. Luc chapitre 3, on commence au verset 1er. On remet dans l'histoire. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène. Il replace bien. C'est une histoire dans l'histoire. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, Jean-Baptiste, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. » Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde, de votre salaire. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, fera du ménage dans son champ. Il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Amen. Bénis ta parole ce matin, qu'elle trouve une porte d'entrée en nous, que nous ne fassions pas un mur devant toi, mais un chemin. Nous te remercions. Amen. Gardez-vous d'être troublés, a dit Jésus. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, de soulèvement. Que votre cœur ne se trouble pas. Ne pensez pas que le temps de Jean-Baptiste était un temps doré. Voyons bien dans ses paroles qu'il y avait des effondrements comme des vallées. Nous voyons bien que la vie des gens était raboteuse comme un chemin rempli de cailloux. Nous voyons bien que la vie des gens était tortueuse en zigzag et qu'il y avait des montagnes d'impossibilités et pas de changement pour Dieu. On ne revenait pas vers Dieu. On disait, la tradition, nous avons Abraham pour père, ça nous suffit. Nous sommes une bonne famille, croyante, ça nous suffit. Abraham est notre ancêtre. Pourquoi revenir vers Dieu, puisqu'on le connaît depuis l'école du dimanche? Je voudrais vous donner deux messages ce matin, de Jean-Baptiste. Peut-être que ces messages, nous allons essayer de nous dire, c'est pour moi, Seigneur. Premier message que nous dirait Jean-Baptiste, je pense qu'il nous dirait, revenez à Dieu. Repentance, ça veut dire revenir à Dieu. Revenir au rocher de notre salut. Ce matin, j'ai suivi les événements hier comme vous. Ma tête, mon cœur restent remplis de ces scènes de violence extrême et d'inquiétude pour l'avenir de la société, des familles, de l'économie, du travail. Nous sommes dans l'inquiétude au niveau mondial. Je ne vous parlerai pas de cette manifestation parce que je ne voudrais pas que nous perdions de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre relation avec Dieu. Il ne faut pas perdre de vue ça. Pas que les images de la télé nous chavirent. Parce que sans la relation avec Dieu, il est impossible de faire face à ce que nous avons vu et à tout ce que nous allons voir encore demain. Sans la relation avec Dieu, on va perdre la soif de Dieu. Et il faut garder cette soif. Au milieu de la fin du monde, je ne veux pas être prophète de malheur, être prophète réaliste. Nous sommes dans la fin du monde. Et au milieu de cette fin du monde, il faut garder la beauté de l'Évangile. Il ne faut pas parler forcément que de l'Apocalypse. Il faut garder les paraboles de Jésus. Jésus avec les enfants, avec les malades, Jésus qui multiplie les pains, parce que tout ça, ce sera toujours vécu tant qu'il y aura des hommes sur la terre, le Seigneur sera là. Il faut donc redécouvrir Jésus, redécouvrir Dieu, revenir à Dieu. Rappelez-vous, Moïse au buisson ardent, sur le mont Sinaï, il a fait une découverte. Dieu lui a dit, je suis le Dieu de tes pères. Il a réalisé que le Dieu de ses pères, ce Dieu très lointain, il existe. Malgré la détresse du peuple d'Israël en Égypte, Dieu existe, c'est une réalité. Il est présent. Malgré tout ce que nous avons vu, Dieu est présent en France. Et il agit dans l'histoire. Et Moïse le verra. Et nous aussi. Il agit. Moïse a fait cette conversion. Dieu n'est pas une idée que nos ancêtres nous ont transmise. Dieu est au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous croyons, au-delà de l'univers, plus grand que tout. L'univers est grand, Dieu est plus grand. Il faut le redécouvrir pour ne pas avoir peur. Il faut briser, je pense à cette femme, Marie, qui avait un parfum dans un vase d'albâtre, et elle a cassé le vase pour mettre le parfum sur les pieds de Jésus. Et je pense que souvent nous mettons Dieu dans un vase, on l'enferme. Dieu, il est comme ça, et pas autrement. Il faut casser ce vase pour que nous voyions Dieu comme nous ne l'avons jamais vu. dans toute sa beauté, sa force, sa présence. Il y a une image que j'aime bien dans la Bible, c'est l'image du rocher. Dieu, mon rocher. C'est même un nom de Dieu, mon rocher, ma forteresse. Et nous, dans ce temps de trouble qui n'a pas cessé comme ça, nous, il faut que nous soyons comme ces oiseaux qui se réfugient sur le rocher. On les appelle des rochassiers, les oiseaux des rochers. Il y en a beaucoup au bord de la mer, des rochassiers. Il faut qu'on puisse, comme l'oiseau, se tenir sur le rocher, s'accrocher à Jésus, y faire notre nid, y amener nos enfants, comme l'oiseau amène ses petits sur le nid, sur le rocher. Le rocher, c'est un peu dur, c'est impénétrable, ça paraît un peu anguleux. Mais c'est notre rocher, c'est pas un rocher contre nous, c'est un rocher pour nous. L'Éternel est mon rocher. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre par moi-même. Je vous dis cela pour que vous ayez confiance. Celui sur lequel on s'appuie ce matin, il est solide, et il chassera notre peur, et il sera avec nous, et il fera des prodiges au milieu des églises. Amen. Le rocher, c'est fait pour être escaladé, c'est fait pour se cacher, c'est fait pour se réfugier, c'est pas fait seulement pour chanter, pour le voir de loin. Regardez les oiseaux, la nuit, quand il y a de la tempête, ils ne sont pas imprudents, ils viennent sur le rocher, ils s'accrochent, ils blottissent leurs ailes sur le rocher, ils font corps avec le rocher, et puis la tempête passe et ils sont sauvés. Dieu est pour nous un abri, un appui, un rocher. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Amen. Il faut revenir à Dieu. Il faut nous reconvertir dans ce temps de ténèbres et de détresse. L'apôtre dit dans l'épître aux Hébreux, tant que la promesse subsiste. Pourquoi ? Un jour, la promesse sera terminée, la porte sera fermée. Tant que la promesse subsiste, tant qu'elle est là, restez avec le Seigneur. Regardez-le dans toute sa beauté. Restons humbles devant lui. Il nous dit, ne t'inquiète pas, Dieu te suffit. Dieu sera ton aide et il sera stable à tes côtés. Amen. Demandez-vous et vous recevrez. Souvent, quand nous lisons ces paroles, nous pensons à plein de choses. Qu'est-ce que je vais demander ? Qu'est-ce que je vais demander ? Et on pense à plein de bricoles. Mais quand le Christ a dit « Demandez et vous recevrez », je pense qu'il a voulu dire « Je vais me donner moi-même à vous demander et je vais vous donner ma présence. Je vais vous donner mon esprit en vous. Je vais vous donner le Christ au milieu de vous. Amen. Cherchez, vous trouverez. » Et quand on lit ces paroles, on se demande qu'est-ce qu'il faut chercher. Mais c'est lui qu'il faut chercher. C'est Jésus qu'il faut chercher. C'est Jésus qu'il faut demander. Et là, la promesse, elle s'accomplit. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas avec l'argent qu'on va rebâtir le monde. Ce n'est pas avec des situations extraordinaires. C'est simplement dans l'amour du Christ, dans la foi en Jésus, que Dieu garde l'Église. Amen. Première pensée. La deuxième pensée de Jean-Baptiste, j'aimerais que nous regardions dans le prophète Malachie, c'est juste avant Matthieu, dernier livre de l'Ancien Testament, et le dernier verset de l'Ancien Testament, tout au bout de la jetée, là il y a un verset que vous connaissez bien, parce que c'est la mission de Jean-Baptiste qui est prophétisée. On va lire le verset 5 et 6 de Malachie, ou Malachie, on peut dire Malachie, chapitre 4. Versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. ce jour grand et redoutable. Là, on voit qu'il s'agit venu de Jésus, mais deuxième venue de Jésus. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Mission de Jean-Baptiste, ramener le cœur des enfants vers leurs pères, ramener le cœur des pères vers les enfants. La paix du pays dépend des pères et des enfants. Vous vous rendez compte? La paix de la famille, la paix de l'Église dépend des pères et des enfants. C'est une conversion aussi. Il ramènera. Quand on est ramené, quand on est conduit, retourné vers le Père, c'est une conversion. Le retour à la paix des familles, c'est la bénédiction de l'Église. Et c'est une bénédiction pour le monde. Mais je pense que ce verset, voyez-vous, il signifie plus que ça. Parce que juste avant le retour de Jésus, il ne s'agit pas que le papa et l'enfant soient bien en bons termes, ce qui est déjà magnifique. Mais je crois qu'il s'agit surtout de la foi des pères et la foi des enfants. Il faut que les enfants retrouvent la foi des pères et il faut que la foi des pères rejoigne la foi chancelante des enfants. Parce qu'on a constaté qu'il y a toujours une dégradation de la foi avec les générations. Regardez Abraham, magnifique, splendide, l'homme de la foi. Isaac aussi, très beau. Et Jacob, moins bon. Et ses enfants, criminels, menteurs, violeurs. Regardez la dégradation. C'est pourquoi le prophète dit, il faut que la foi des pères revienne alimenter la foi des enfants. Sinon, dit le Seigneur, je frapperai le pays d'interdit. Interdit, ça veut dire le pays vous sera interdit. Vous perdrez les richesses de votre pays. Si vous ne travaillez pas ensemble, si vous ne priez pas ensemble, si vous ne retrouvez pas la richesse de la foi des pères qui avaient vu Dieu, si vous transformez cette foi magnifique qui a tenu le monde en rigolade, vous perdrez votre pays. Vous perdrez la terre. Il y a un danger. Aujourd'hui, la France est devant l'inconnu. On me dit de part et d'autre, après ce temps de trouble, viendra peut-être le temps des barbares et des dictatures. Nous sommes devant de l'inconnu. Et il faut que nous apprenions. Revenons à la famille, que les pères soient en paix avec les enfants et avec la femme. Et puis que nous retrouvions la foi de nos pères. Et que les pères parmi vous aident les plus petits. C'est ce que Moïse a fait. Il y a eu une panique en Israël à la sortie d'Égypte, Amalek, ce pillard qui fond sur Israël pour détruire tous ceux qui traînaient la jambe, qui étaient toujours en retard, qui ne faisaient jamais les choses, qui traînaient les traînards. Moïse prend avec lui des jeunes, jeunes pour son temps. Il prend Aaron et Hur, et le vieillard avec ses plus jeunes tend ses mains vers Dieu, la foi des pères et la foi des enfants. Et la paix revient, Amalek est vaincu, Israël est sauvé. Amen. Il faut qu'on soutienne nos pères et que nos pères nous soutiennent. Je pense à Josaphat, roi de Juda, roi de Jérusalem. Josaphat, dans l'Ancien Testament, une fois on lui annonce, une multitude s'avance contre toi pour te détruire avec le temple et le peuple et les enfants. Tout sera détruit. Une multitude. Josaphat, le roi, se dispose. Il faut qu'il se prépare. On ne vient pas comme ça au culte. On se prépare. Moi, je me prépare dès le lundi matin. Josaphat se dispose à chercher l'Éternel. Il dit, « Je déclare un jeûne dans tout le pays. » Et on est venu de toutes les villes, de tous les villages. On est venu avec les enfants et les petits-enfants pour prier le Seigneur, pour échapper à ce grand malheur. Et ils disaient dans leur prière, « N'est-ce pas toi, Seigneur éternel, qui domine sur toutes les nations de la terre ? N'est-ce pas toi ? Sauve-nous, Seigneur !» J'aime beaucoup leurs paroles et je la prends pour moi, je la prends pour notre temps difficile. Nous sommes sans force. Que voulez-vous faire ? Sinon prier, nous sommes sans force, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Et tout le pays de Juda se tenait debout, debout, avec les petits-enfants, avec les femmes et leurs fils. Ils étaient tous là pour dire, Seigneur, fais-nous grâce. Et le Seigneur leur a dit, ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et parfois nous sommes dépassés par les problèmes, avec le mari, la femme et les enfants, et le travail et la santé. Le Seigneur nous dit, ne vous effrayez pas, ce n'est pas vous qui combattez, c'est le Seigneur qui combat pour vous. Amen. Il faut avoir conscience que nous passons aujourd'hui auprès du vide. Connaissez ce passage de l'Apocalypse où il est dit que l'abîme a ouvert ses portes. Je crois qu'on y est là. L'abîme a ouvert ses portes et des sauterelles sont sorties de l'abîme pour tourmenter les hommes jusqu'à la mort, mais ils ne pouvaient pas mourir. Tourmente. Je pense que l'abîme s'est ouvert. Et je pense que des esprits méchants envahissent notre belle planète. Et que tout prépare la venue de Jésus-Christ dans la gloire. Seigneur, tiens-nous fidèles. Amen. Garde-nous de craindre. Peut-être pour conclure, que nous dirait Jean-Baptiste aujourd'hui, revenez à Dieu, redécouvrez-le et revenez vers la foi de vos pères et aidez vos enfants dans la foi. Mais il nous dirait peut-être en conclusion, le Seigneur vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Non pas pour que vous fassiez des exubérances, mais le Saint-Esprit, c'est pour qu'on soit fort. Et cette force, le malin la ressent. C'est pour qu'on tienne bon. C'est pour qu'on reste ferme dans l'espérance et la prière. Qu'on soit plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je prie pour vous. Priez pour moi. Ce matin, il ne faut pas jouer les... Il ne faut pas jouer les malins. Ce matin, on a besoin des prières de tous. On a besoin de prier pour toute l'Église. Et pour sa vie personnelle, il ne faut pas qu'elle soit tortueuse, raboteuse, effondrée. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Et que celui qui est impur continue de... se souiller, voilà, on ne peut rien faire. Je prie le Seigneur. Ramène-nous vers nos enfants, mais aussi vers la foi de nos pères. Nous voulons penser aux apôtres dans leurs époques de troubles et de persécutions. Nous voulons penser aux hommes d'Israël dans les troubles, dans les déportations, et qui sont restés fermes comme Daniel, Ézéchiel et d'autres. Fais-nous revenir au Dieu de nos pères, parce que nous sommes entrés dans un temps trouble. Fais-nous revenir aux fondamentaux, au fondement de la vie, au fondement de la foi. Pardonne toutes nos folies, tout ce qui nous a égarés dans nos têtes, dans nos cœurs. Fais-nous revenir, Seigneur, parce que le monde aura besoin de voir des hommes et des femmes stables, équilibrés, présent. La peur risque de s'emparer de tellement de gens. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de l'Église. Tu es là, nous sommes rassurés. Personne ne nous ravira de ta main. Tu veilleras sur nous et nous serons un jour avec toi. Et nous nous consolons par ces paroles. Amen.